ces gens qui font la différence, avec Sophie Stanquet.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces gens qui font la différence. Aujourd'hui, je reçois André Vincent. Il est chef des services adaptés à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et en revenant sur son parcours académique et professionnel, on revisite aussi toute l'évolution de l'accès à la lecture, du braille, aux voix de synthèse, du magnétophone, au MP3, en passant par le CD-ROM. Les différents jalons de sa carrière nous permettent aussi de passer en revue l'histoire des différents organismes qui ont participé au développement du livre adapté. Nous le recevons tout de suite après. Monsieur Vincent, bonjour.
Bonjour.
Je suis très heureuse de vous accueillir en studio aujourd'hui. On va passer une heure avec vous. Et on va connaître votre vie, mais aussi tout le parcours, justement, du développement au niveau de tous les organismes qui ont œuvré au développement pour les personnes non-voyantes au Québec. Alors, donc, monsieur Vincent, vous êtes né où?
Je suis né à Rougemont, en Montérégie, donc dans le pays des pommes. Peu de temps ou l'année qui a suivi la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Et je pense que vous appelez, c'est ça, mon village de pommes, vous disiez ça à vos parents, il y avait quelque chose de rigolo à ce niveau-là.
Oui, un petit peu au pays des pommes.
Au pays des pommes, c'est ça.
Je suis presque né dans un pommier, quoi.
C'est ça, exactement. Alors, comment se passe la petite enfance? Est-ce que ça fonctionne bien? Vous êtes heureux?
J'ai eu une enfance, la petite enfance, puis les années qui ont suivi, là, après qu'on ait quitté Rougemont, relativement heureuse. Oui, je garde mes premiers souvenirs de ce petit village, de la maison où on habitait, du verger derrière la maison. Donc, mes premiers souvenirs là, sont liés à ça. Mm-hmm. Et c'est à Rougemont que j'ai commencé à aller à l'école en première année, en 1952. C'est également là, par contre, que mes parents ont découvert assez jeune que j'avais une déficience visuelle.
Mm-hmm. La rétinite pigmentaire.
La rétinite pigmentaire, qui est une pathologie qui se manifeste assez tôt dans la vie. Mm-hmm. Mes parents se sont rendus compte un jour que quand, par exemple, ils échappaient un objet par terre, puis je voulais le chercher, le récupérer. Mm-hmm. Mais au lieu de faire un balayage visuel, je me servais tout autant, sinon plus, de mes mains pour trouver. Alors là, ils ont constaté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Oui.
Ils ont consulté l'ophtalmologiste de mon grand-père, qui était à Montréal à ce moment-là. L'ophtalmologiste qui a confirmé que j'avais un problème visuel et... de façon très pessimiste, qui leur a annoncé que, leur a dit dans ces mots-là, votre enfant, malheureusement, ne pourra jamais aller à l'école.
Oui, et ça, c'est important que vous le dites, parce que on vous disait, il ne pourra pas aller à l'école, ce que finalement, vous n'avez pas écouté, puis votre famille, vous avez fait tout le contraire, même vous avez été un des premiers à l'école, et apprendre les leçons par cœur. Hein? Vous étiez une mémoire d'enfer. Est-ce que cette mémoire est toujours là?
J'ai la chance, plusieurs décennies plus tard, d'avoir encore une mémoire qui me fait pas trop faux bond. Uh-huh. Et c'est ce qui m'a sauvé beaucoup et surtout beaucoup aussi la volonté de mes parents. De ma mère, notamment, qui m'a beaucoup aidé dans mes premières années scolaires. Mm-hmm. Je dois dire que mes parents, il leur est pas venu à l'idée, probablement parce qu'ils n'avaient pas nécessairement l'information de voir s'il y avait des écoles spécialisées pour des personnes qui avaient une déficience visuelle comme la mienne. Alors, ils ont choisi, et je leur en suis reconnaissant, tout de suite de m'envoyer à l'école régulière où mm-hmm. j'ai eu non seulement leur appui hein, et l'aide de ma mère pour les devoirs, les leçons de soir, mais je dois dire que le milieu où j'ai vécu, d'abord à Rougemont, puis par la suite à Pointe-Claire, à partir du milieu de ma première année, s'est toujours montré très compréhensif par rapport à cette situation-là.
Donc, une grande ouverture à ce niveau-là.
Oui, oui.
Cependant, une déception quand vous voulez, parce que vous êtes bon, il faut le dire et il faut le souligner, vous êtes bon en classe, les notes sont superbes, avec une mémoire incroyable. Là, vous décidez, comme la plupart des gens de cette époque, parce que le cours classique, c'était le cours à avoir avec une culture générale, on vous fait vous demander d'aller à Rigaud, et là, on vous refuse.
Bon, je vois que vous êtes très bien informé. Alors oui, à un moment donné, je souhaitais faire mon cours classique, arriver à la fin de l'élémentaire, au début du secondaire, et je me suis présenté au collège Bourget à Rigaud à l'époque. Et j'avais bien réussi les tests, mais à cause de ma déficience visuelle, on a dit « ben malheureusement, c'est pas la place pour vous ». Mais on a une école dirigée par les classes Saint-Viateur, les mêmes qui sont à Rigaud, qui est l'Institut Louis Braille à Longueuil. Vous pourriez vous adresser là. Sauf qu'à Longueuil, il n'y avait pas de cours classique. Et c'est pour ça qu'après avoir terminé mon cours secondaire, j'ai eu la chance, informé par le curé de ma paroisse à Pointe-Claire, d'être admis au collège Saint-Jean-Vianney, sur le boulevard Gouin, où j'ai fait ma belle lettre et ma rhétorique. Curieusement, le collège Saint-Jean-Vianney, c'est un séminaire dit pour vocation tardive, chose que je n'avais pas nécessairement, mais je l'ai découvert assez rapidement, mais oui. Ça m'a permis de compléter mon cours classique ces deux années-là. Ensuite, mes années de philosophie au séminaire de philosophie sur la Côte-des-Neiges, qui, la même année où j'ai complété, est devenu, parce que là, c'était le virage de l'éducation au Québec, la réforme suite au rapport parent, et là, c'est devenu un cégep. Mais j'avais complété mon baccalauréat ESSAR à ce moment-là, ce qui m'a amené par la suite. J'ai choisi de m'orienter vers le travail social à l'Université de Montréal.
Et entre-temps, je ne sais pas c'est comment dans le temps, mais vous rencontrez une sœur qui est très importante dans votre vie, qui vous dit... qui vous montre le braille, qui vous dit que ça serait important. Alors, elle vous montre la voie, en quelque sorte, de dire « il faut absolument que tu apprennes le braille ».
Ça a été vraiment une découverte pour moi. Et avec le recul, je me dis « ça aurait été le fun de l'apprendre plus tôt ». Mais les circonstances ne l'ont pas fait. Et pourtant, graduellement, ma vision diminuait. Là. J'ai pu longtemps lire, mais laborieusement, avec des loupes, des lunettes... très épaisse, mais c'était de moins en moins possible. Et au milieu de ma première année à l'Université de Montréal, là, j'ai constaté que c'était plus possible. Je ne lisais absolument rien et on n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui. Alors, mon seul recours, c'était d'enregistrer les cours et de dactylographier mes travaux, mes examens avec les anciennes machines à écrire. En le faisant un petit peu au hasard, puisque je ne voyais pas ce que j'écrivais, je ne voyais pas le résultat, ça demandait beaucoup de concentration. Alors, au milieu de cette première année d'université, ou après ma première année, ma mère connaissait la directrice de l'Institut Nazareth, qui était apparentée à son frère là, par alliance. C'était la belle-sœur de mon oncle maternel. Et on m'a orienté vers sœur Véronique Caillé, qui m'a appris le braille.
C'est important pour vous. Là,
très important. J'ai eu mes quatre premières leçons, et je dirais mes seules leçons de braille avec elle. Et après ces leçons-là, ben, j'ai été en mesure de lire mon premier livre en braille, ce qui était vraiment une découverte.
Mais M. Vincent, déjà là, en partant, parce que je parle à plusieurs personnes non-voyantes, et quand même, c'est beaucoup de cours. Vous, quand je lisais dans les notes biographiques que m'a donné ma recherchiste, c'est seulement quatre leçons. Je trouvais que vous étiez bon.
Il ne faut pas en faire une règle. Hein? J'ai toujours eu cette chance de pouvoir apprendre assez facilement. Dieu merci. Et Pour le braille, il faut dire que la motivation était beaucoup là aussi. Oui. Hein? J'ai toujours été friand de lecture. Mm-hmm. Hein? Tout ce que je pouvais lire, même si c'était par bribes, dans mon enfance, je l'ai fait. Hein? À commencer par des plus petits livres, des collections dans le temps Rouge et Or, mais surtout les bandes dessinées. Mm-hmm. Hein? Mon inspiration de l'époque, c'était Tintin, hein, avec les albums d'Hergé.
Alors, donc, vous étiez...
J'aimais beaucoup la lecture. Et ça,
un
c'est
friand
poursuivi.
De lecture.
C'est pas pour rien qu'on me retrouve bien des années plus tard dans le domaine bibliothèques.
Exactement. Je veux juste connaître votre rapport avec les premiers moments où vous découvrez que c'est extraordinaire, je suis capable de lire grâce au braille.
Ben, je dois dire que ça a été vraiment pour moi une... non seulement une découverte, mais une... une renaissance, en quelque sorte, parce que tout ce monde auquel j'avais accès, mais de façon bien limitée, je devais mm-hmm. être très sélectif, mais là, tout d'un coup, je découvrais que mon choix allait s'accroître énormément, parce qu'il y avait déjà, à l'époque, une bibliothèque en braille. On y retrouvait, bien sûr, pas autant de titres qu'aujourd'hui, mais déjà pas mal pour... les années 1968-69. Mm-hmm. Alors, c'était vraiment... ça a complètement changé ma vie. Je pense qu'on ne serait pas là à avoir cet échange aujourd'hui là, si je n'avais pas connu le braille et que Louis Braille en soit remercié, mm-hmm. parce que ce n'est pas pour rien qu'on a connu son génie, hein, en le plaçant au Panthéon à Paris il y a quelques années.
Alors, à cette émission, vous êtes le guide des choix musicaux. Vous avez choisi, mais vous nous dire pourquoi, vous avez choisi Félix Leclerc, Notre Sentier, pourquoi?
J'ai aimé Félix Leclerc déjà presque depuis ses débuts. C'est probablement un des premiers chanteurs que j'ai connus. Hein. J'étais tout jeune et ma mère me chantait. J'avais appris par cœur Le Petit Bonheur de Félix Leclerc et j'ai eu la chance de l'entendre à diverses reprises au cours de mon adolescence, du temps où Félix faisait la tournée des collèges ou des écoles pour venir chanter seul avec son petit tabouret et sa guitare. Et j'ai choisi pour aujourd'hui... Notre Sentier, qui est, je pense, la première chose qu'il a indiquée ou une des premières qu'il a faite.
Alors, on l'écoute.
Notre sentier, près du ruisseau, est déchiré par les labours. Si tu venais, fixe le jour, je t'attendrai. Sous le bouleau, les nids sont vides et décousus. Le vent du nord chasse les feuilles. Les alouettes ne volent plus, ne dansent plus. Les écureuils, même les phares de tes sabots sont agrandis en flaques d'eau. Notre sentier près du ruisseau est déchiré par les labours. Si tu venais, fixe le jour, je guetterai sous le bouleau. J'ai réparé un nid d'oiseaux, je l'ai cousu de feuilles mortes. Mais si tu vois sur tous les clos les rendez-vous de noirs corbeaux, vas-tu jeter aux flaques d'eau tes souvenirs et tes sabots? Tu peux pleurer près du ruisseau, tu peux briser tout mon amour.
Mesdames, Messieurs, nous sommes en compagnie d'André Vincent, chef des services adaptés de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Alors, on remonte dans le temps. À l'université, ça va bien. Vous apprenez le braille, c'est plus facile. Et comme vous mangez de la littérature, vous êtes heureux, vous apprenez à lire en braille et ça va extrêmement bien. Vous décidez de travailler pour l'INCA, l'Institut national canadien pour les aveugles. Donc ça, c'est un chemin direct. Vous avez envie d'aller travailler là parce qu'il y a l'amour des livres. Pourquoi?
C'est un peu plus compliqué que ça. Mon orientation première, c'était d'aller en travail social. J'ai été travailleur social à Valleyfield pendant quelques mois. Et comme cet emploi-là, j'ai pas pu le poursuivre là, pour toutes sortes de contraintes, notamment financières qu'il y avait là-bas, et je voulais continuer dans le domaine. Donc, j'ai vu qu'il y avait un poste de travailleur social disponible à l'Institut national canadien pour les aveugles. Et c'est à travers le travail social que je me suis retrouvé dans cet organisme où... D'abord, j'ai travaillé pour aider les personnes en perte de vision, pour les aider là, dans leur premier pas dans ce domaine hein, qui est pas toujours, qui est pas facile quand on constate un beau jour qu'on verra plus ou qu'on ne voit plus. Alors, ça correspondait à ce que je souhaitais faire, le travail social. Les circonstances ont rapidement fait que je me suis retrouvé plutôt gestionnaire de la réadaptation à l'INCA. Et vers la fin des années 70, au moment de l'élection du Parti québécois, il y a eu un changement d'orientation et le Québec a décidé de prendre en charge la réadaptation des personnes qui avaient des handicaps, dont la déficience visuelle. Mm-hmm. Et j'ai travaillé à l'INCA à négocier le transfert de ressources humaines vers le réseau de la santé et des services sociaux. Ça ne s'appelait pas tout à fait comme ça dans ce temps-là, mais c'était la même chose, c'était ce grand réseau. Et par la suite, les circonstances ont fait qu'en 1977, j'ai quitté l'INCA et j'ai vu à nouveau le travail social me suivait, un poste à l'Institut Nazareth et Louis Braille de Longueuil. J'ai postulé, puis encore là, c'était une histoire un petit peu particulière. Après quelques mois, à peine, il y a eu un poste de gestionnaire qui s'est ouvert et je suis devenu adjoint au directeur des services professionnels et j'ai progressé à l'Institut Nazareth et Louis Braille dans divers postes. Et en 1983, on m'a proposé de devenir le directeur de ce qu'on appelait les services culturels. Donc, vraiment, là, de diriger la bibliothèque de l'Institut Nazareth et Louis Braille, de diriger les services de production Braille, puis un petit peu par la suite aussi les services informatiques. Ce que j'ai fait jusqu'en 1994.
Jusqu'en 1994, mais il y a la bibliothèque Jeanne Sipiotte aussi, où vous êtes très, très impliqué.
Oui, beaucoup. Certain nombre de personnes constataient que l'avenir d'une bibliothèque, c'était peut-être pas nécessairement dans un centre de réadaptation. J'étais un de ceux-là et j'ai pris l'initiative avec l'appui de la direction générale de l'époque à l'Institut de créer une nouvelle instance qui s'appelait la Bibliothèque Jeanne Sipiotte, qui a été la première bibliothèque numérique pour les personnes déficientes visuelles au Québec. On s'est entouré, s'est joint à moi pour ce travail-là, diverses personnes, grâce à ma conjointe d'aujourd'hui, Michèle Brûlé, qui s'est impliquée là-dedans aussi, puisqu'elle est elle-même une grande lectrice de braille. Elle est allée chercher des personnes qu'elle connaissait comme et que vous connaissez bien aussi, Alain Stanquet, qui a été un des membres fondateurs de la bibliothèque, avec également le père Fernand Lindsay et M. Jean Sipiotte, qui a donné son nom à... dont la sœur a donné son nom à la bibliothèque, qui était lui-même une personne très impliquée dans ce milieu-là. Alors, on a fondé cette bibliothèque-là, Par la suite, j'ai quitté l'Institut Nazareth et Louis Braille et c'est là que j'ai décidé d'aller compléter ma maîtrise.
C'est ça, à McGill, hein? Vous allez à McGill en 92.
En sciences de l'information.
Mais c'est ça, j'avais envie de vous poser cette question. Mais pourquoi? Parce que vous aviez tout, là. Est-ce que vous aviez cette soif encore d'apprendre, d'aller plus loin?
Je l'ai encore aujourd'hui, d'ailleurs, mais je l'avais tout autant à l'époque et... Disons que je souhaitais poursuivre et aller plus loin dans le domaine des bibliothèques. Et je ne sais pas si c'était une préscience, mais c'est ce qui m'a amené plus tard, on va y revenir dans quelques minutes, à Bibliothèque et Archives nationales du Québec et à la Grande Bibliothèque. Mais donc, oui, je souhaitais aller faire des études dans ce domaine-là. Et comme je connaissais déjà l'Université de Montréal, suite à mon bac en service social, j'étais allé aussi faire quelques études aux hautes études commerciales. Alors, j'ai décidé de faire ma maîtrise dans un autre milieu, même s'il se donnait une maîtrise dans le domaine à l'Université de Montréal. J'ai choisi McGill pour connaître une nouvelle diversité tout en apprenant les sciences de l'information.
Alors, on écoute la prochaine chanson. Cette fois-ci, c'est Jacques Brel, La Quête. Pourquoi?
Jacques Brel, je disais tantôt que Félix, c'est celui qui a marqué un peu mon enfance comme chanteur. Jacques Brel, c'était le chanteur de mon adolescence. J'achetais à peu près tous ses albums. J'ai eu la chance de le voir la dernière fois où il est venu au Québec en 1967 à la Comédie canadienne. Et La Quête, ben, c'est une de ses très belles chansons, là, extrait de L'Homme de la Mancha.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure, d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille, et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour l'inaccessible étoile.
Je reçois André Vincent, chef des services adaptés à la Bibliothèque Archives nationales du Québec. Et c'est un petit peu vous, ça, atteindre l'inaccessible étoile, atteindre, militer pour faire en sorte que tout se passe bien. Vous avez fait progresser deux dossiers, en particulier la révision de la liste des aides visuelles et le livre adapté. Évidemment, ça a commencé par une instance qui est le RAC, hein, le Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec, donc de 2000 à 2004, mais vous avez toujours été militant.
Oui, pour moi, c'est une chose importante. Je pense qu'on prend... Il est très important de prendre notre situation en main. Pendant des décennies, pendant très longtemps, il y a eu des organismes qui se sont occupés des personnes qui avaient des déficiences visuelles et qui l'ont très bien fait, mais certaines personnes... se sont dit, heureusement, et si c'est arrivé, c'était très effervescent à cette période des années 70, ben, qu'il fallait peut-être et qu'on serait mieux servi en se prenant soi-même en charge. Mm-hmm. Et c'est pourquoi je me suis impliqué, moi, activement, là, dès la fin des années 70, dans le mouvement associatif qui était voué à la défense des droits et la promotion des intérêts des personnes qui ont une déficience visuelle, le Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec sa section ou sa division de Montréal qui a été mise en place et dont j'ai été un des membres fondateurs au début des années 80. Et j'ai toujours continué à m'impliquer bénévolement au niveau de ces organismes de promotion, ce qui m'a amené un peu plus tard, au moment où j'avais besoin de travailler aussi, ben de le faire, mais de façon rémunérée comme directeur général du Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec.
Qu'est-ce qu'il y avait à changer à l'époque? Si on se rapporte aux années 70, qu'est-ce que vous vouliez changer?
Je crois que ce qui était très important de changer, c'est de s'assurer que ce soit les personnes déficientes visuelles elles-mêmes qui décident ce dont elles avaient besoin. Mm-hmm. Okay. Et alors que pendant très longtemps, ben, ce sont les autres qui décidaient un peu à leur place. Ça ne veut pas dire que les choix étaient toujours moins bons, mais il y a quand même eu des actions importantes qui ne se sont réalisées qu'à partir du moment où les personnes déficientes visuelles ont pris la situation bien en main. Vues et voix, connues pendant bien des années sous le nom de la magnétothèque, ben, oui. C'est une de ces conséquences-là parce que ses fondateurs, dont son premier directeur général, M. André Hamel, ben, a été une de ces personnes qui a milité beaucoup à la fin des années 70 pour s'assurer que les personnes déficientes visuelles prennent en charge leur destinée et même les services dont ils avaient besoin, notamment l'accès à la lecture.
Merci. Alors, on fait une pause publicitaire et on revient tout de suite après.
Ces gens qui font la différence. Voici Sophie Stanquet.
En compagnie d'André Vincent, chef des services adaptés à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Alors justement, depuis 10 ans, vous y travaillez. Comment c'est arrivé? Parce que vous, c'est un cheminement assez logique, hein, finalement, mais vous bougez beaucoup quand même, là. De différentes institutions.
Oui, et j'étais devenu bibliothécaire, donc, et depuis 2000, j'étais au Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec comme directeur général. Mm-hmm. Et là, ça bougeait beaucoup dans le domaine de l'accès à l'information au Québec. Il y avait un questionnement, et je m'y suis impliqué activement, où devait, où serait le mieux dispensé hein, les services de bibliothèque et par quel canal les personnes handicapées auraient le mieux accès à de plus en plus de titres, à de plus en plus de ressources. Et c'est tout ça, ben, a fini par s'intégrer hein, dans ce projet, ce rêve de Mme Lise Bissonnette de créer la grande bibliothèque au sein de Bibliothèque nationale du Québec à mm-hmm. l'époque. Et dans ce contexte-là, ben, il y avait l'intégration, bien sûr, de la bibliothèque de Montréal, mais le gouvernement du Québec a souhaité et que les services de bibliothèque pour les personnes handicapées se retrouvent, ce qu'offraient la Magnétothèque et l'Institut Nazareth et Louis Braille, se retrouvent à la grande bibliothèque. Alors, il y a eu une entente de signer à l'été 2004 dans ce sens-là. Et dans ce contexte-là, BANQ avait besoin de trouver une personne pour coordonner le tout. J'ai vu l'affichage, bien sûr, et j'ai dit, ben tiens, c'est fait pour moi. J'ai postulé et j'ai obtenu l'emploi. Et depuis ce temps-là, je suis à BANQ et depuis 2007 à titre de chef des services adaptés, ce qui inclut, bien sûr, non seulement l'ensemble des collections accessibles en braille, depuis en audio numérique, sur CD, depuis quelques années, ou également par téléchargement, mais je suis également responsable. Les services adaptés doivent s'assurer que l'ensemble des ressources de BANQ soient accessibles partout au Québec à tous les groupes de personnes handicapées, moteurs, auditifs, visuels, troubles d'apprentissage, déficience intellectuelle, etc.
Alors c'est ça, c'est fait. Le fonctionnement, c'est des livres pour les auditeurs qui sont à l'écoute, où les gens peuvent, je veux dire, pour eux, ils retrouvent, c'est merveilleux, le pouvoir de lire. Tous ces gens-là, toute cette clientèle-là qui ne pouvait pas lire grâce à BANQ, ils peuvent lire maintenant. Ils sont. Oui. Et comment ça fonctionne pour être abonné?
Pour s'abonner au Service québécois du livre adapté de BANQ, il faut simplement avoir une confirmation de sa déficience perceptuelle, c'est-à-dire mm-hmm. Quelque chose qui nous dit, ben, à cause de telle situation, soit vision ou problème de motricité, la personne ne peut pas manipuler les documents, a eu un traumatisme crânien sévère, n'est plus en mesure de lire l'imprimé mm-hmm. Facilement ou ne peut plus le lire du tout. Alors, dès qu'on a une certification de ça, la personne peut s'abonner. ABANQ, elle complète le formulaire ou le fait compléter. Et par la suite, ben, elle peut bénéficier de tous les services adaptés ainsi que de l'ensemble de tous les services de BANQ, mm-hmm. parce qu'on parle bien sûr des collections adaptées, les quelques 12 000 titres en braille, dont 2 500 partitions musicales en braille. On a maintenant près de 14 000 titres audio numériques sur CD et près de bientôt 8 000 qui peuvent être téléchargés mmh. pour les personnes qui veulent y accéder encore plus rapidement. Mais on parle aussi pour d'autres de collections en gros caractères. Et je tiens à le mentionner également, ben, la possibilité d'accéder à tout plein de bases de données ou de ressources numériques qui peuvent être accessibles à partir du portail de BANQ.
Alors, c'est très bien. Alors, les livres sont disponibles sur CD. Est-ce que ça peut être expédié par la poste gratuitement?
Oui. Les documents à l'intention des personnes déficientes visuelles bénéficient d'une franchise postale. Et je peux mm-hmm. vous dire que peut-être 97 % de nos abonnés se prévalent de ça. Donc, empruntent par la poste mm-hmm. plutôt que de venir emprunter les documents sur place. On a autour de 7 000 abonnés réguliers au moment où on se parle. Et,
c'est bon, c'est rendu à 7 000.
Oui, et bon an, mal an, ben, je peux vous dire que le prêt de documents adaptés, oui. Après plus de 10 ans maintenant, ou bientôt 10 ans, la Grande Bibliothèque, on a fêté notre 10e anniversaire à la fin du mois d'avril, ben, le prêt de documents adaptés ne cesse d'augmenter. Et c'est particulièrement vrai au cours des 3 dernières années pour le téléchargement, qui est un mode d'emprunt là, qui croît de façon exponentielle. Je me permets d'ajouter, par contre, que BANQ aussi veut faciliter l'accès à l'ensemble de ces services sur place et qu'on a depuis quelques années maintenant, un service d'accompagnement offert par les bénévoles qui s'appellent les Amis de BANQ. Et toute personne qui aurait besoin d'aide pour venir bouquiner à la grande bibliothèque, se faire aider pour venir emprunter les CD de la collection de musique, qui voudrait venir faire des recherches généalogiques, mais ne pourrait pas le faire par elle-même, ben, peut être accompagnée des Amis de BANQ.
Alors, ça, c'est une autre bonne chose. Je répète aussi que gratuitement, donc, on peut expédier par la poste. On peut télécharger en ligne, il peut y avoir des réservations et des commandes de livres au téléphone ou sur le site. Parlez-moi de les collections. Quel genre de collections vous avez?
Les collections adaptées, ce sont des collections grand public, donc où on retrouve à la fois de la fiction et des documentaires. Là-dedans, dans les documentaires, notamment les biographies qui demeurent avec la fiction, les documents les plus demandés par nos usagers. Alors, on a une politique de développement des collections basée sur, bien sûr, la nécessité de donner une profondeur à ce fonds documentaire, mais où on tient compte aussi des suggestions qui nous sont faites par les usagers, dans la mesure, bien sûr, où ces suggestions-là vont atteindre un public large. Là, on ne va pas enregistrer un document qui ne serait d'utilité que pour une seule personne, mais les suggestions sont les bienvenues et on en reçoit régulièrement.
Alors, au niveau de la voix humaine et synthèse vocale, c'est l'utilisation de la voix humaine et synthèse, c'est une nouveauté chez vous, hein, je pense.
La synthèse vocale, oui, c'est nouveau. On a un projet, on vient d'acquérir nos 20 premiers titres en synthèse vocale, parce que vous savez sans doute là, qu'il y a des synthèses vocales de très haute qualité maintenant. Et le fait d'avoir la possibilité de produire en voix de synthèse, on pense que ça aura comme impact d'augmenter le nombre de titres disponibles et surtout de les rendre accessibles plus rapidement, ce qui est particulièrement important pour des documents qui auraient un caractère de vie plus éphémère. Hein? Vous savez qu'il y a certains titres qui sont d'une actualité brûlante, mais dans 2 ans, peut-être qu'ils seront moins lus. Alors, ceux-là, bien, c'est très important de les avoir presque au moment où ils deviennent disponibles sur le marché.
Alors, donc, ça c'est dans les nouveautés, ça?
Voilà.
Pour les
voilà.
prochaines années.
Dans les nouveautés, mais déjà, on met en ligne ces jours-ci là, nos 20 premiers titres en synthèse vocale et on va proposer, ça c'est tout nouveau, je tiens à le dire, pour les lecteurs de braille qui ont des afficheurs braille, donc des appareils qui leur permettent de lire du braille, mais pas sur papier, ils pourront dorénavant télécharger nos titres en braille à partir du portail de BANQ également, comme ils peuvent le faire pour les titres audio numériques depuis bientôt 5 ans.
On écoute avec le temps Léo Ferré. Je vous laisse nous dire pourquoi.
Ça, c'est une chanson qui m'a toujours bouleversé, hein? Je pense que ça dit bien tout ce que ça veut dire. On sait que le temps passe inexorablement. On aimerait bien en avoir plus et qu'il dure beaucoup plus longtemps. Malheureusement, on n'a que celui qui nous est imparti et je pense que Léo Ferré a su rendre ça dans ce qui est une belle chanson d'amour aussi en même temps. A su rendre ça dans ce qu'on va entendre.
On l'écoute.
Avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait,
cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs. Satan de ses gueules à la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas, les mots des pauvres gens, ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus.
Alors, André Vincent, ce sont vos mots, c'est une chanson d'amour de la vie.
Voilà.
Vous l'avez, l'amour de la vie.
Oh, je pense que c'est ce qu'on a de plus essentiel. Quand on aime la vie, ben, je pense qu'elle nous le rend bien. Et dans mon cas, ben, elle me l'a toujours très bien rendu.
Alors, vous avez une vie personnelle merveilleuse aussi, une compagne fantastique, Michel Brûlé. Tous les deux, vous faites, c'est vraiment extraordinaire, vous faites des projets ensemble. Vous voyagez aussi beaucoup, vous adorez voyager. Quand on lisait vos notes biographiques, les voyages font partie de votre vie.
J'ai toujours aimé voyager, et dans le cas de Michel, qui a passé 9 années en Allemagne d'ailleurs, je ne sais pas si c'était par goût du voyage, c'est plutôt la musique qui l'a amené là, mais on a découvert qu'on avait vraiment ça en commun parmi bien d'autres choses. Et d'ailleurs, notre premier voyage ensemble, c'était... on a visité les 6 Montréal de France en 1993, et c'était de beaux moments. Mais par la suite, on a eu la chance d'aller en France à plusieurs reprises. On y retourne au mois de mai prochain. En Allemagne aussi, Michel m'a amené là où elle avait vécu pendant 9 ans. Mm. Et un peu plus tard, en Autriche aussi, à cause de la musique.
Ah, oui, parce que est-ce que c'est une passion commune, la musique, des deux?
Oui.
Ou c'est
oui.
Michel qui joue un instrument?
Elle en joue. Moi, j'aime bien la musique. Je me m'essaie à chanter de temps en temps, notamment des lieder de Schubert. Mais Michel a été formée, elle, en musique d'accompagnement au piano.
Alors, donc, passion musique, voyage, et tous les deux passionnés aussi de vos métiers.
Oui, tout à fait. Pour moi, mon travail, c'est une chose bien importante. C'est pour ça, même si j'y suis, là, déjà, ça fait quelques années qu'on aurait dû me mettre à la retraite ou que j'aurais dû la prendre, et je continue toujours. Et ça, c'est parce que j'aime beaucoup ce que je fais.
Comment vous êtes comme patron?
Ah, ça faudrait le demander à mon personnel. Je pense
moi, j'en ai entendu que du bien. Je n'ai entendu que du bien, que des beaux mots.
je crois que quand on doit atteindre des objectifs professionnels, ça se fait en équipe. Alors, je considère que l'équipe qui m'entoure est au moins tout aussi responsable, sinon plus que moi, des résultats qu'on peut obtenir. J'essaie donc de me montrer à l'écoute parce que du personnel heureux va offrir aux usagers des services dont les usagers vont être satisfaits aussi. Et je dois dire que les commentaires que je reçois de la part de nos usagers quand mon personnel a à leur répondre au quotidien sont toujours très positifs.
Si vous retournez en arrière, j'aime bien faire ça parce que vous avez fait tout un chemin, tout un parcours pour arriver à BANQ. Est-ce que vous trouvez qu'on peut être fier du Québec, on peut être fier maintenant du travail accompli pour les non-voyants?
La grande bibliothèque, je pense que c'est quelque chose d'unique dans le monde, hein, ce regroupement de tout plein de services et de ressources. Et je dois dire, puis en toute modestie, je pense y avoir apporté ma contribution, mais le message que j'ai voulu apporter, qu'une bibliothèque doit être ouverte à tous et doit être inclusive pour les usagers qui ont des besoins spéciaux, les dirigeants de BANQ l'ont compris. Et c'est pas pour rien qu'il y a, en 2013, notre conseil d'administration a adopté une politique d'accessibilité qui fait en sorte que chaque fois que des projets nouveaux se présentent, on doit se préoccuper en amont, hein, avant même de les réaliser, que les nouvelles initiatives, que ce soit des collections nouvelles, des réaménagements, ce sera accessible à l'ensemble des usagers qui ont des handicaps.
Alors, je m'adresse aux militants. Si ce militant avait le chapeau de premier ministre du Québec, qu'est-ce qu'il changerait pour les prochaines années à venir?
Mon Dieu! Pour les personnes handicapées?
Oui.
Je pense qu'il faut leur donner de plus en plus de place. Il faut les écouter de plus en plus. Il ne faut pas se gêner à fournir les ressources. Et Dieu sait que c'est pas le discours qu'on entend actuellement, mais les ressources nécessaires qui vont les rendre de plus en plus autonomes. Parce que souvent, on voit que des coupures sont annoncées dans divers réseaux, etc. Mais faut pas oublier que quand on investit quelques dollars ou quelques milliers de dollars, quelques centaines de milliers de dollars pour rendre les personnes handicapées de plus en plus autonomes, on multiplie par 10 et par 100 les retombées même économique au sein de la société, parce que ce sont des personnes à qui on offre notamment la possibilité de travailler et d'être des citoyens à part entière.
Mmh. Quel est le plus beau compliment qu'un usager qui est venu à BANQ vous a dit?
Écoutez, je l'ai entendu et ça ne s'adressait pas uniquement à moi, mais je me souviens d'une dame qui m'a appelé qui avait un commentaire à faire au sujet des services, puis Mais si vous savez, Monsieur Vincent, si je ne vous avais pas, demain matin, je pense que je mourrais parce que vous êtes ma seule source de divertissement que j'ai présentement.
Ouf. Ça, c'est... ouais. C'est quelque
donc, et ça, ben, je pense que c'est aussi un beau compliment, non seulement pour BANQ, mais pour toutes les personnes, y compris les bénévoles de Vues et Voix, qui contribuent à produire ces documents adaptés.
Alors, sur ce, on fait une petite pause musicale et on revient avec les questions à Raval. De retour avec André Vincent, les questions rafales cette fois-ci. Donc, quelles sont les personnes qui vous ont inspiré?
Bon, près de moi, il y a eu mes parents, parce que c'est eux qui m'ont donné l'amour que j'ai de ma vie. Et je me souviens aussi de quelques enseignants au niveau élémentaire, dont une institutrice à qui je reparle encore, même aujourd'hui. Il y a un frère de l'instruction chrétienne qui m'ont beaucoup inspiré. Et qui m'ont surtout encouragé à poursuivre.
Vos mentors?
Mon mentor, ce sont certains écrivains ou personnages qui m'ont que j'ai admiré. Hein? Alors, je vais vous nommer des gens comme Richelieu, qui est un personnage politique que j'ai toujours trouvé admirable de par son intelligence, sa perspicacité, sa vision aussi. Plus près de chez nous, René Lévesque est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré parce que c'est probablement un de nos rares grands politiciens qui était manifestement authentique.
Les livres que vous nous recommandez?
Parmi mes préférés, je vous dirais que je pense qu'il faut lire « Les frères Karamazov » de Dostoïevski. Si je voulais être un peu plus actuel et nous aider à faire face au cynisme qui nous entoure et à l'information pas toujours facile à départager, j'inviterais les gens à lire le petit cours d'autodéfense intellectuel de Normand Baillargeon. Je pense qu'on a bien besoin d'un outil comme ça pour ne pas se faire passer n'importe quoi.
Et puis, vos artistes préférés?
Mes artistes préférés en musique, c'est certainement Schubert, qui est mon compositeur préféré. Et j'avais choisi d'ailleurs comme interprète Dietrich Fischer-Dieskau, qui est mon interprète de prédilection pour les leaders de Schubert. Mais je pourrais en nommer beaucoup, évidemment.
Donc on aurait pu entendre du Schubert aujourd'hui.
Voilà.
Je comprends bien. Vos villes préférées, ça, je sais, je pense que ça va être quelques villes, là.
Oui, allons-y pour Paris. Paris à cause de bien des choses, mais notamment à cause de toute l'histoire qu'on y retrouve. Je suis un passionné d'histoire et je sais qu'on pourrait passer toute une vie à Paris, puis on continuerait à faire des découvertes là, sur tout ce qui s'est passé là-bas et toute la vie qu'il y a à Paris. Mm-hmm. Et Vienne, que j'ai eu la chance de visiter avec Michel en 2010. Et Vienne, ben, c'est surtout pour la musique, bien sûr. J'ai eu le bonheur d'aller à la maison natale et à la maison où Schubert est décédé aussi. J'ai eu la chance d'aller prendre un verre de vin blanc dans un endroit où Beethoven allait prendre son verre de vin blanc à l'occasion. Et on est allé à Baden dans la chambre où Beethoven a composé sa 9e symphonie. Et ce qui a été merveilleux, c'est qu'on a permis à Michel de pouvoir jouer un petit bout de sonate pathétique sur ce piano.
Extraordinaire, ça. C'est un moment extraordinaire de la vie, ça.
Voilà.
Alors, merci.
Parmi bien d'autres.
Merci d'avoir passé ce moment extraordinaire avec nous, Monsieur Vincent. Et puis, tout le meilleur pour BANQ. Et un bon bonjour à Michel Brûlé, votre conjointe.
Mais merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir.
Merci à mon équipe, Rémi Hermoso est à la réalisation de l'émission. Christiane Campagna est à la recherche et aux médias sociaux. Claudia Benoît, c'est Sophie Stanquet. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.